Ok. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour cette journée d'études sur la transmission, je vais vous parler des Henyo, qui sont des femmes plongeuses en apnée qui pêchent les fruits de mer en Corée du Sud et principalement sur l'île de Jeju. Donc le mot Henyo coréen signifie « femme de la mer » et ces dernières sont indissociables de cette île. Si leur culture remonte à plusieurs siècles maintenant, elle est aujourd'hui en voie de disparition. En effet, en 2017, on ne recensait plus que 4300 Henyo alors qu'elles étaient 23 000 à leur apogée dans les années 60. Et en 2016, il avait été recensé seulement 67 Henyo en dessous de 50 ans. La grande majorité de ces femmes sont désormais âgées et donc leur culture viendrait à disparaître avec elles. La Corée du Sud a entrepris plusieurs choses pour éviter la disparition de cette culture, comme la création d'une école de Henyo, ou encore demander à ce qu'elle soit inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, ce qui est le cas depuis 2016. Mais le fait est qu'il est plus facile, moins dangereux et plus rentable pour les femmes d'avoir un métier plus conventionnel sur la terre ferme. Et donc aujourd'hui, j'aimerais étudier comment une auteure sino-américaine nommée Lisa Si a permis de mettre en lumière ces femmes et leur culture en voie de disparition à travers son roman « L'île des femmes de la mer », « The Island of Sea Women » de son titre original, publié en 2019. Donc cette présentation va se diviser en trois parties. Donc je vais d'abord présenter le roman et son contexte historique. Ensuite, je vais parler de l'évolution des Henyo ainsi que leur rapport à l'écologie. Et pour terminer, je vais parler des Henyo en tant que représentante de la structure matriarcale de Jeju. Donc l'île des femmes de la mer, comme je le disais, est un roman historique qui se déroule sur l'île de Jeju et qui se passe de 1938 à 2008. L'histoire suit l'amitié de deux Henyo, Yang-suk et Mi-ja, à travers différents événements historiques qui se sont déroulés sur l'île. Tout d'abord, le roman dépeint la vie des personnages sous l'occupation japonaise, l'Empire japonais ayant annexé la Corée en 1910 et ce jusqu'en 1945 à sa capitulation. Ensuite, le roman se concentre sur le soulèvement de Jeju, qui fut une série de protestations contre la partition de la Corée en 1945. Donc, en effet, après avoir été sous l'occupation japonaise pendant des décennies, les Coréens espéraient de redevenir libres à la capitulation du Japon, mais deux grandes puissances mondiales se sont partagées le pays et l'ont mis sous protectorat, le temps que le pays soit prêt à être autonome. Donc l'URSS communiste occupait le territoire au-dessus du 38e parallèle et les États-Unis démocratiques et capitalistes, celui en dessous. Les habitants de Jeju étaient contre cette partition du pays et la situation n'a fait qu'empirer suite aux multiples décisions du gouvernement provisoire américain et à l'élection du 10 mai 1948 qui élit Syngman Rhee comme président de la République de Corée. Les protestations sur Jeju ont été fortement réprimées par les autorités coréennes et malheureusement cela a entraîné de multiples massacres. Approximativement 30 000 personnes sur Jeju ont perdu la vie lors de cette période, c'est-à-dire 10% de la population totale de l'île. Et jusque dans les années 2000, c'était un crime de parler de ce soulèvement, ce qui explique pourquoi cette histoire n'est pas très connue. Et comme je vous le disais, pour raconter cette histoire peu connue de la Corée, l'auteur a décidé de prendre le point de vue d'une Henyo, ce qui permet également au lecteur d'apprendre la culture de ces femmes mythiques de l'île de Jeju. Et l'on apprend sur leur culture dès le début du roman, en suivant la première journée de Yang-suk et Mi-ja en tant que Henyo en 1938 alors qu'elles ont 15 ans. Les deux filles rejoignent les autres Henyo vers la rive pour discuter et organiser leur plongée du jour, discussion qui est menée par la chef du collectif, la mère de Yang-suk. Le collectif discute toujours du lieu de plongée avant d'entreprendre cette dernière, prenant en compte les conditions climatiques, la dangerosité des fonds marins pour les novices et les temps de reproduction pour préserver la biodiversité marine. En effet, la mère de Yang-suk le rappelle lors d'une discussion avec son collectif, je cite « De même que sur la terre, nos champs sous la mer suivent les saisons. Pour honorer le temps de la reproduction, on ne peut pas ramasser les conques de juillet à septembre et les ormeaux ne peuvent être récoltés d'octobre à décembre. Il est de notre devoir d'être les gardiennes et les superviseuses de la mer. Si nous protégeons nos champs d'eau, ils continueront à nous nourrir. » Et en effet, d'après le musée Henyo de Jeju, les Henyo interdisent la récolte à certaines périodes de l'année pour préserver l'écologie de la région. Elles interdisent aussi la récolte de jeunes poissons, mollusques et crustacés. Malheureusement, à l'heure actuelle, la pollution et le réchauffement climatique détruisent de plus en plus le lieu de travail des Henyo, ce qui contribue à leur disparition progressive. Donc maintenant, j'aimerais me concentrer sur leur équipement, que vous voyez sur la photo. Lors de cette première journée en tant que Henyo, Yang-suk et Mi-ja doivent porter la combinaison qui se compose alors de trois pièces de vêtements d'eau faites de coton blanc uni qui, vous l'imaginez bien, ne tient pas très chaud. Quant à leur matériel de pêche, le roman nous l'indique et nous introduit de nouveaux mots coréens pour en nommer certains. Je cite « Mère vérifia que j'avais tout mon matériel. Elle accorda une attention particulière à mon tewak, une gourde à vider laissée sécher au soleil qui me servirait de bouée. Puis elle fit de même avec Mi-ja. Nous avions chacune un bicheng pour déloger les créatures de leur abri et une binette à dents pour fouiller dans les fissures et pour nous déplacer en la plantant dans le sable ou les rochers. Nous avions aussi une faucille pour couper les algues, un couteau pour ouvrir les oursins et une lance pour nous protéger. Et comme vous l'imaginez, l'équipement actuel des haignos a évolué, même si le matériel de pêche est le même. En effet, comme il est indiqué dans le roman et comme vous le voyez sur cette image, les haignos portent maintenant des combinaisons de plongée qui ont d'abord été introduites dans les années 70 pour cacher leur corps, car les haignos étaient perçus comme trop impudiques par la société coréenne, donc c'était pas pour les protéger du froid. Mais ces combinaisons les ont aidés à mieux plonger, et ce, en sécurité. Je cite, « Quand Yong-suk avait commencé à utiliser une combinaison, elle avait pu rester plus longtemps dans l'eau, car elle était mieux protégée du froid. Le lest et les palmes aussi les aidaient à atteindre une plus grande profondeur. Résultat, elle était plus en sécurité, ses prises augmentaient et elle gagnait davantage d'argent. Mais quand on avait suggéré que les haignos utilisent des bonbonnes d'air comprimées, elle avait refusé comme toutes les autres plongeuses de l'île. Tout ce que nous faisons doit être naturel, avait-elle dit au collectif. Autrement, nous récolterons trop, nous épuiserons nos champs sous-marins et ne gagnerons plus rien. Encore une fois, il était question d'équilibre. » Donc comme on peut le voir, il y a encore cette volonté de protéger les champs sous-marins, mais aussi de ne pas montrer trop d'avidité, ce qui peut être dangereux. Et en fait, c'est un discours qu'on retrouve tout au long du roman, mais aussi dans les interviews des haignos. Si vous regardez des vidéos sur Internet, souvent, ils vont dire qu'une haigneux qui est trop avide risque d'en mourir. Et vous remarquerez sur la photo aussi que si avant, elles avaient des lunettes de plongée en métal, elles ont désormais des masques ronds qui laissent seulement passer leurs lèvres pour qu'elles puissent respirer à la surface et libérer leur sumbisori, que Lisa-ci décrit de cette manière, je cite, « Le sumbisori est le son spécial, pareil à un sifflement ou à l'appel d'un dauphin, qu'une haigneux émet quand elle perce la surface et libère l'air qu'elle gardait dans ses poumons, suivi par une profonde inspiration. » À savoir que pour plonger en apnée, ces femmes essayent d'emmagasiner le plus d'air possible dans leurs poumons en faisant plusieurs petites respirations successives avant de plonger, ce qui leur permet de rester 1 à 2 minutes sous l'eau avant de remonter à la surface. Mais pour en revenir à l'évolution des haignos, le plus grand changement pour elles est la présence d'hommes. Je ne parle pas là d'hommes haignos, mais d'hommes désormais responsables des coopératives qui leur dictent où plonger et qui supervisent les ventes, ce que les haignos n'apprécient pas vraiment, comme on peut le lire, je cite, « Elle ne sait pas ce qui lui déplaît le plus, qu'un homme leur donne des ordres ou le son génial de son mégaphone. » En effet, si Yong-suk n'apprécie pas qu'un homme lui donne des ordres, c'est parce que les haignos sont les représentants d'une société dite matriarcale sur Jeju, et c'est ce dont je vais parler à présent. Donc, dès la première page du roman, on apprend que l'île de Jeju est connue pour ses trois abondances, le vent, les pierres, du fait que Jeju soit une île volcanique, et les femmes. En effet, les femmes ont toujours été très présentes sur cette île, d'abord car au cours de l'histoire, plusieurs hommes de Jeju sont morts en mer à cause de la pêche, mais aussi parce que leur nombre a de nouveau baissé après le soulèvement de Jeju, puisque les personnes qui ont été majoritairement massacrées étaient des hommes. De fait, on lit dans le roman, je cite, « Jeju avait toujours connu un excédent de femmes, mais avec tant d'hommes et de garçons tués, des lignées entières éliminées, le déséquilibre était encore plus grand. » De fait, l'île est connue pour avoir une structure plutôt matriarcale dont les haignos sont représentantes, même si en réalité il s'agit plutôt d'un système aux familles matrifocales, donc centrées autour de la mère, plutôt qu'un matriarcat. Mais si on associe souvent le mot matriarcat à Jeju, c'est parce que tandis que dans le reste de la Corée, c'était les hommes qui travaillaient et subvenaient aux besoins de leur famille pendant que les femmes s'occupaient du foyer, c'était l'inverse pour énormément de foyers sur Jeju. Les haignos subvenaient aux besoins de leur famille et c'était ainsi le cas de la famille de Yong-suk. Sa mère et elle sont celles qui apportent de l'argent au foyer tandis que le père s'occupe des enfants en leur absence avec les autres pères du village. Cependant, quand leurs femmes ne sont pas en mer, c'est elle qui s'occupe des enfants, du ménage, de travailler dans le champ et de absolument tout le reste. C'est d'ailleurs pour cela que les haignos, tout au long du roman, ont souvent des paroles sexistes, voire misandres, et donnent l'impression d'avoir le dessus sur les hommes. Pour vous donner un exemple, une haigneau dans le roman dit « Mon mari rêve d'être le chef de famille, mais c'est moi qui fais tout. Je le considère comme un invité chez moi. » Voilà. De fait, les hommes sont souvent vus comme fainéants et sensibles, voire faibles par les haigneaux dans le roman. Et une des raisons qui les pousse à penser cela est que ces hommes utilisent souvent l'argent de leurs femmes pour boire beaucoup d'alcool, ce qui cause divers problèmes, tels que des violences domestiques dont plusieurs d'entre elles sont victimes. Et à propos de cette consommation d'alcool excessive, la mère de Yong-suk tente de raisonner et dit, je cite, « Pensez à ce que ça doit être pour eux de vivre dans une maison qui dépend de la queue d'un jupon. » C'est pourquoi, même si les haignos se vantent souvent de n'être soumises à aucun homme, la réalité est que leur vie est très difficile de par leurs conditions de femme. Il y a un passage du roman où la fille de Yong-suk discute avec les haignos résume bien la situation. C'est vous qui prenez les décisions dans votre foyer, expliqua-t-elle. Vous gagnez de l'argent, vous avez une bonne vie. Gouja écarta cette idée. Nous nous considérons fortes et indépendantes, mais il suffit d'écouter nos chansons pour savoir que nos journées sont dures. Ma sœur a raison, intervint Gosung. Mieux vaut naître vache que femme. Si stupide et paresseux qu'il soit, un homme s'en sort mieux. Il ne doit pas superviser la famille, il ne doit pas laver les vêtements, gérer la maison, veiller sur les anciens ou se préoccuper que les enfants aient à manger et un endroit où dormir. Il ne doit pas travailler dans les champs ni en mer. Ses responsabilités sont de s'occuper des enfants et de cuisiner un peu. Dans d'autres endroits, on les appellerait femmes au foyer, dit Junli. Ainsi, comme on peut le voir, les Haenyeo ont une vie très difficile et inégalitaire, même si en apparence, elles semblent avoir le dessus sur les hommes de leur famille. Aujourd'hui, les choses se sont améliorées et les hommes travaillent autant que leurs femmes, mais il est vrai que même si les Haenyeo avaient des familles matrifocales, elles étaient toujours perdantes dans un pays confucianiste qui croyait que « quand tu es une fille, obéis à ton père, quand tu es une femme, obéis à ton mari, quand tu es veuve, obéis à ton fils ». Donc pour conclure, il y a énormément de choses qu'on apprend sur les Haenyeo dans ce roman. Il y a plein de choses dont je n'ai pas pu parler, les conséquences de la pratique sur leur santé, toute leur relation au chamanisme. Mais pour ça, en fait, je vous invite juste à lire le livre, en fait, ce qui ça ira plus vite. Ou alors, vous pouvez attendre le K-drama, donc la série coréenne qui va être adaptée, qui est en cours de production pour adapter le roman. Voilà, merci.